Bonjour, merci d'être fidèle à notre rendez-vous dominical, à ce magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, passé et présent. Cette semaine, nous allons nous pencher sur la douloureuse question de l'esclavage en compagnie d'une grande spécialiste de l'histoire de l'Afrique que je suis ravi d'inviter, Catherine Kokri-Vidrovitch, qui vient de publier « Les routes de l'esclavage » chez Albin Michel. « Les routes de l'esclavage » est aussi le titre d'une série de 4 documentaires qui ont été diffusés sur Arte. Ils sont aussi disponibles en DVD. Nous allons donc faire un point sur la dévastation causée par l'esclavage en nous appuyant, grâce à Catherine Kokri-Vidrovitch, sur les recherches les plus récentes. Voici donc un nouveau numéro d'idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, un magazine que vous pouvez retrouver sur l'appli RFI Pure Radio et sur le site de la radio www.rfi.fr. Bonjour Catherine Kokri-Vidrovitch.
Bonjour.
Je suis absolument ravi de vous accueillir. Vous êtes une des rares universitaires françaises à avoir consacré votre travail d'universitaire, de chercheuse à l'Afrique. Vous vous comptez, hein, vous n'êtes pas très nombreux.
Non, nous ne sommes pas très nombreux, mais de plus en plus nombreux au fur et à mesure que les générations avancent, parce que nous étions, je pense, 3 ou 4 au démarrage, et maintenant il y en a plus d'une dizaine, disons, au moins, et plus tous les jeunes qui commencent. Donc, l'histoire de l'Afrique n'est plus quelque chose dont on disait que quand j'ai commencé, dans les années 1970, l'histoire de l'Afrique n'existe pas. Ouais. C'est pas vrai du tout. Depuis 30 ans, elle a énormément accumulé de connaissances.
Alors, vous avez, on va parler un petit peu de vos travaux, Catherine Kokri-Vidrovitch, soutenu une thèse de 3e cycle intitulée « Brazza et la prise de possession du Congo, la mission de l'Ouest africain », c'est ça ?
Oui, c'est ça. Hein,
et une thèse d'État intitulée « Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930 », c'est ça aussi ?
Alors c'était le Congo entendu comme l'Afrique équatoriale française qui n'existait pas encore.
Alors vous avez fait plusieurs séjours de recherche dans des universités américaines et aussi en Australie.
Oui.
Et vous avez été professeur à l'université Paris Diderot de 1975 à 2002. Et vous avez fondé et dirigé à la fin des années 70 le laboratoire Connaissance du Tiers-Monde Afrique, un laboratoire qui existe encore aujourd'hui.
Alors il existe toujours, plus avec les mêmes membres évidemment, mais sous un nom différent. Maintenant son nom est le CESMA, il existe toujours. Il compare toujours ce qui s'est passé en histoire, en géographie, en sciences politiques entre Afrique, Asie et Amérique.
Bien, alors on va parler de ces routes de l'esclavage pour reprendre le titre de votre livre et du documentaire qui a été diffusé sur Arte. C'est 4 documentaires absolument à la fois passionnants et accablants qui font le point sur cette question douloureuse de l'esclavage, alors qu'en France, il y a 170 ans, était aboli l'esclavage, le 27 avril 1848, par le gouvernement provisoire de la Deuxième République. Il avait déjà été aboli une première fois en 1794.
Oui, donc par la Révolution française.
Il a fallu 2 dates pour que, au moins sur le papier, cet esclavage soit aboli. Ce qui est une des choses notables de votre livre, Catherine Kokri-Vidrovitch, c'est que vous tenez compte des dernières recherche sur cette question de l'esclavage.
Oui, parce que une des entreprises de la compagnie Fars et Balises qui a fait le film a eu une intention de très grande documentation. Alors, comme j'ai été conseillère historique de la Syrie, j'ai d'abord ouvert mon carnet d'adresses et donné les noms de toute une série de spécialistes internationaux que je connaissais, qu'ils ont d'ailleurs complété et qui ont tous été interviewés très longuement.
Oui. On va entendre l'un d'eux.
J'y suis passé aussi, c'est-à-dire 3 ou 4 heures, tout a été transcrit et tout a servi pour le scénario et ceci m'a donné l'idée d'aller évidemment consulter les travaux de ces spécialistes dont certains je ne les connaissais pas quand ils étaient par exemple brésiliens ou espagnols et je me suis aperçu qu'il y avait une quantité d'éléments que nous ne connaissions pas encore en France et mon idée était de faire connaître au public français intéressé En pensant en particulier, mais pas seulement, aux enseignants qui ont à l'enseigner et qui n'ont pas d'instruments, tout ce que l'on pouvait savoir, non pas sur les traites en général, comme semblerait l'indiquer le film, mais moi j'ai mis un sous-titre, il s'agit des traites africaines. C'est-à-dire tout ce qui concerne les traites africaines, ce qui ne veut pas dire que je ne parle pas d'autre chose, mais c'est vraiment centré sur les esclaves noirs qui sont partis à travers le monde depuis les origines.
Et vous parlez notamment de cette question sensible du nombre de victimes qu'a fait cet esclavage, qu'ont fait les traites, notamment chez les Africains. On parle en général, et le documentaire, votre livre, vous y revenez aussi abondamment, on parle de 50 millions de victimes.
Alors, il s'agit d'une série d'approximations. Le chiffre dont on est absolument sûr, c'est le chiffre des esclaves qui vont aborder les côtes américaines. Les chiffres sont très précis, ils ont été calculés par les chercheurs de trois façons différentes. Il y a une équipe qui a compté tous ceux qui étaient arrivés dans les ports américains, depuis l'Argentine jusqu'aux États-Unis ou au Canada. Il y a beaucoup de sources, évidemment, les comptes des bateaux, les comptes des ports, etc. Une autre équipe a travaillé sur les départs d'Afrique, donc c'est une autre source. Et une troisième équipe, tout ça ne s'est pas passé en même temps, ça s'étale sur une trentaine d'années, une troisième équipe a compté le nombre de bateaux négriers et la moyenne d'esclaves par bateau, et tout le monde s'est trouvé d'accord à, alors évidemment, terrible à dire, à 1 ou 2 millions près, mais disons que maintenant, compte tenu des nouvelles recherches, on pense qu'au moins 12,5 millions d'Africains, d'esclaves africains, ont abordé les côtes américaines. Les historiens font une hypothèse, c'est une hypothèse en disant, ben, pour produire un esclave, si l'on peut dire, il a probablement eu un mort entre les rapts en Afrique, les caravanes, les bateaux, etc. Par conséquent, 12-13 millions, ça doit faire peut-être 25 millions de morts. Alors, pour les traites arabo-musulmanes, qui ont commencé beaucoup plus tôt et qui ont duré plus longtemps, mais qui ont été assez différentes, parce que pour la traite atlantique, c'est assez rapidement devenu, je dirais, la traite bête et méchante. Toutes les traites étaient bêtes et méchantes, mais enfin particulièrement cruelles pour les champs de canne à sucre.
Quasiment industrielle, effectivement.
Oui, quasiment industrielle au 17e, 18, surtout au 18e et au début du 19e siècle avec le coton dans le sud des États-Unis. Dans le monde arabo-musulman, il y a eu des plantations, mais elles ont donné lieu à des révoltes tellement violentes, en Mésopotamie en particulier, que finalement l'esclavage de plantation n'a pas eu la même existence. Donc c'était surtout un esclavage de travaux publics, de travaux privés, de domesticité. Donc c'est un peu différent.
Alors on va suivre l'ordre chronologique, si vous le voulez bien, Catherine Kokri-Vidrovitch, avec cette première époque donc du 5e siècle au 14e siècle, de Bagdad au Caire. Hein, et nous allons illustrer ce magazine avec des extraits de ce documentaire, Les routes de l'esclavage. Et écoutons d'abord le professeur, vous le connaissez,
oui,
Ibrahima Tioub de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Il parle de la fabrication de l'esclave dans l'esprit, les mentalités. L'esclave ne peut pas être un humain.
Un des phénomènes importants, c'est de le construire comme autre, de construire une altérité. Et sous ce rapport, les sociétés humaines disposent d'un registre assez large. On peut utiliser la différence de couleur de peau, la différence de religion. Et dans la traite transsaharienne, on va combiner les deux.
Alors Ibrahima Tioub parle de cette fabrication de l'esclave dans l'esprit, dans les têtes, en faisant référence à la traite des Arabes musulmans qui sont allés, pendant l'époque que nous évoquons, 5e, 14e siècle, toujours plus au sud, pour aller chercher des esclaves, en désignant l'esclave comme un sauvage, comme des bêtes.
Absolument. Et alors, il a tout à fait raison de marquer cette différence. Il commence avec la traite transsaharienne. Avant, disons, avant le 7e siècle, l'esclavage a existé de tout temps dans toutes les sociétés. Oui. Société africaine, société asiatique, société européenne aussi. Il y avait les serfs, mais il y avait aussi des esclaves. Contrairement à ce qu'on croyait, ça n'est pas fini avec la chute de l'Empire romain. Ça a continué probablement jusqu'au 10e, 12e siècle. Et ça a été repris après par les Portugais à partir du 15e siècle.
Et notamment les slaves, les esclaves.
Mais l'essentiel, c'était les slaves. On sait aussi que vers le 10e siècle, Kiev, en Ukraine aujourd'hui, envoyait des esclaves, envoyait des esclaves et des fourrures du côté de Constantinople. Donc l'esclavage était, je dirais, de toutes les couleurs et très majoritairement blanc. Et c'est à partir du moment où, au 7e siècle, dès la fin du 7e siècle, les Arabes musulmans d'Égypte qui faisaient la guerre et qui voulaient conquérir la Nubie au sud, et ils n'y arrivaient pas. Ils passaient leur temps à faire la guerre. Finalement, les deux parties ont décidé de faire la paix par un contrat qu'on connaît par les archives, mais qui n'a été connu que deux siècles après, qui serait passé à la fin du 7e siècle. Les Nubiens achetaient leur indépendance et leur tranquillité, moyennant la livraison de environ 200 esclaves par an. Et l'accord aurait duré jusqu'au 14e siècle, jusqu'à l'Empire ottoman. Et ça prouve d'ailleurs, entre parenthèses, que l'esclavage existait déjà en Nubie. Sinon, ça n'aurait pas été si évident de réclamer 200 beaux esclaves, parce qu'il s'est précisé, il faut qu'ils soient de bonne qualité par an. Et ce, alors c'est la première fois véritablement que un nombre important d'Africains noirs arrive dans le monde arabo-musulman. Ça ne veut pas dire que la traite n'existait qu'entre blancs et noirs, pas du tout. La traite a continué beaucoup et, disons, en Afrique du Nord, quand elle est occupée par les Arabes à son tour, les Arabes vont prendre des Berbères et les Berbères vont ensuite descendre et faire de la traite plus au sud.
Et les Berbères islamisés qui vont eux-mêmes servir
Alors qu'ils étaient d'abord esclavisés eux-mêmes. Alors, les historiens aiment mieux esclaviser que esclaves, parce que esclaves a l'air de dire que l'esclave est esclave par naissance, comme pensaient les colons et les planteurs. Or, on est toujours esclavisé, c'est-à-dire qu'on devient esclave, soit par naissance, si ses parents étaient déjà esclavisés, soit par rapt, soit par guerre, etc. etc.
Ouais, mais cette traite qui est transsaharienne s'est étendue de plus en plus au sud, fur et à mesure de l'islamisation.
Oui, au fur et à mesure, absolument. Et elle s'est beaucoup développée en relation avec les grands empires soudanais, occidentaux, le Ghana au 10e, 11e siècle, le Mali au 13e, 14e, le Songhai ensuite, qui étaient des sociétés où la traite des esclaves existait, mais où selon l'islam des premiers temps, parce que cet islam des premiers temps a été relativement oublié par les souverains qui avaient besoin de beaucoup de main-d'œuvre, seuls les non-musulmans pouvaient devenir esclaves. Par conséquent, il fallait toujours aller ailleurs pour trouver des non-musulmans. Alors comme malgré tout les sociétés esclavagistes étaient prudentes, lorsqu'un esclave se convertissait, qu'il était déjà esclave, il restait esclave. Ouais. Mais on ne devait pas esclaviser un musulman. Donc dans l'Empire du Mali, vous aviez beaucoup de traite et d'esclavage, mais on faisait la guerre à l'extérieur pour pouvoir les produire et les envoyer et les commercialiser.
Et les envoyer soit à Bagdad et surtout après au Caire.
Oui, absolument. Le plus grand centre pendant longtemps a été Bagdad, qui a attiré des esclaves, alors des esclaves de toutes les couleurs et de partout, il en venait beaucoup d'Europe du Nord aussi. Et puis, à partir du 10e siècle, le Caire, qui s'appelait originellement Fustad, devient un centre majeur et va effectivement recevoir beaucoup d'esclaves noirs venant alors soit de la côte orientale, ce que l'on a appelé les Anges, soit à travers le Sahara, les routes occidentales, depuis l'Afrique occidentale.
Alors ça, c'est une première époque, si je puis dire, Catherine Kokri-Vidrovitch. Il y en a une deuxième qui, elle, s'étend du 14e au 17e siècle, 1375-1620, pour être précis. Il s'agit de l'arrivée des Portugais qui vont en quelque sorte créer les routes et faire débuter cette traite avec ces Africains arrachés de leurs terres. Je propose d'écouter un deuxième extrait de ce documentaire, Les routes de l'esclavage. Il s'agit d'un chroniqueur de la cour au Portugal, en 1444 exactement, qui vient en Afrique et décrit cet arrachement en août. 250 hommes et femmes vendus aux plus enfants qui vont ensuite partir au Portugal.
Le lendemain, qui était le 8 août, très tôt le matin à cause de la chaleur, les équipages commencèrent à préparer les canots et à y mettre les captifs pour les conduire là où il avait été ordonné. Les uns baissaient la tête et leurs visages se baignaient de larmes lorsqu'ils se regardaient les uns les autres. D'autres gémissaient, douloureusement, levaient les yeux vers le ciel et y fixaient leurs regards et criaient à pleine voix, comme s'ils imploraient le secours du Père de la nature. D'autres se frappaient le front de leurs mains. D'autres poussaient des lamentations à la manière d'un chant, selon l'usage de leur pays. Et bien que les mots de leur langage ne puissent être compris des nôtres, ils révélaient bien le degré de leur tristesse. Mais pour que la douleur s'accrût encore, survinrent bientôt ceux qui étaient chargés du partage. Et ils se mirent à les séparer les uns des autres, pour que les parts fussent égales, de telle sorte qu'il était nécessaire de séparer les enfants de leurs parents, et les femmes de leurs maris, et les frères de leurs frères. Aucun compte n'était tenu ni de l'amitié, ni de la parenté, mais chacun allait tomber là où le sort l'emportait.
Voici un témoignage terrifiant sur la réalité de l'esclavage qui incarne cette question de l'esclavage.
Absolument, et c'est le milieu du 15e siècle. Cela se passe sur la plage d'un port du sud du Portugal, Lagos, qui a donné son nom ensuite au Lagos nigérian. Et c'est un agent du roi qui est tout à fait pro-esclavagiste, mais qui néanmoins est très ému par ce qu'il voit. C'est le premier témoignage que nous ayons d'un débarquement d'esclaves au Portugal. Il faut penser qu'au XVe siècle, les Portugais connaissent toute la côte occidentale d'Afrique à la fin du siècle, mais que l'Amérique n'est pas encore découverte, 1492
avec
seulement.
Avec la première route découverte
donc,
par Henri, le navigateur.
C'est la route vers Lisbonne. Ouais. Et au XVe siècle, 150 000 esclaves arrivent à Lisbonne, autant au XVIe siècle, et au total, on estime que les Portugais auraient, pendant la durée de la traite, importé environ 1 million d'esclaves en Europe, directement en Europe. Les Portugais connaissaient d'ailleurs les routes transsahariennes, ils en avaient entendu parler, et s'ils sont partis le long des côtes, c'est parce qu'ils voulaient trouver les sources de l'or que les caravanes transsahariennes apportaient en Afrique du Nord, et que les Arabes d'Afrique du Nord et les Berbères leur revendaient en Europe. Donc il y avait malgré tout un lien et une transmission. Je veux dire, c'est pas complètement séparé l'un de l'autre. Les financiers vénitiens, italiens, qui s'étaient enrichis dans le commerce méditerranéen, ont financé aussi les expéditions vers l'Atlantique. Donc il y a eu une espèce de transmission, de passage progressif, à un moment où les routes de l'Est, les routes des esclaves blancs, les routes de l'Europe orientale étaient fermées parce que Constantinople a été conquis par les musulmans. Mmh. Et donc, il y a eu une espèce de barrière dans l'Est. C'est juste le moment où les Portugais vont se mettre à aller chercher des esclaves vers l'Afrique.
Et ces chroniqueurs qui assistent à l'arrivée de ces esclaves au Portugal relatent bien cet arrachement des Africains.
Absolument.
On devine leur terreur.
Oui, absolument, parce que un esclave, qu'est-ce que c'est qu'un esclave ? Un esclave, c'est un être humain auquel on dénie sa nature d'être humain. C'est une marchandise. C'est un bien meuble, comme on disait dans les Amériques. C'est-à-dire une pièce ou une pièce d'Inde. C'est pas un être humain. Mais en même temps, les maîtres savaient que c'était des êtres humains, donc c'était très paradoxal, cette affaire. Et il faut qu'il soit arraché à son milieu d'origine pour être sûr qu'il ne se sauve pas et qu'il ne retourne pas chez lui. Donc c'est l'étranger par définition. L'étranger à la culture, l'étranger à la religion ou l'étranger de continent.
Ce qui implique des complicités, j'allais dire, j'emploie ce mot, des Africains eux-mêmes. qui allaient chercher ces...
Absolument, il faut penser que...
ces esclaves,
le trafic,
tout se passait sur la côte.
Le trafic des esclaves dans l'Atlantique était quelque chose d'extrêmement rémunérateur pour ceux qui le pratiquaient. Et tous ceux qui étaient sur les côtes, presque tous, ont été intéressés par cette affaire, qui est une affaire de profit, qui est une affaire économique. Et il n'y avait pas de raison pour lesquelles des chefs côtiers africains à qui on demandait la marchandise, entre guillemets, la refusent pour ne pas participer. On leur apportait en échange ce qu'ils demandaient, des tissus, des armes, de l'alcool, des objets manufacturés. Et par conséquent, ils faisaient aussi de bonnes affaires. Et donc, les gens de la côte, bien sûr, ne vendaient pas leur sujet. Ils vendaient des étrangers. L'Afrique est un immense continent. Il y avait énormément de chefferies, de principautés différentes. Quelquefois, elles étaient en paix. De plus en plus, elles se sont fait la guerre précisément parce qu'il fallait ramasser des esclaves chez les étrangers pour venir soit les utiliser, soit les exporter.
Alors, Catherine Cochry-Vidrovitch, il y a un tournant au XVe siècle, grâce ou à cause surtout des Portugais. C'est l'apparition à Sao Tomé, donc sur ces routes qui mènent vers l'Empire du Congo, notamment, au Sao Tomé, la création de ces plantations, le début de ces plantations sucrières qui vont marquer le départ de ces traites.
Absolument, parce que avant, c'est une période très intéressante au XVe siècle où les Portugais, les jeunes Portugais qui arrivent sont peu nombreux, ils ont besoin de femmes, ils vont acheter une esclave sur la côte. À la deuxième génération, c'est donc une population métisse, créole, tout le monde parle portugais, les gens ne sont pas très nombreux, il s'agit de quelques dizaines de personnes et de marchands de part et d'autre, et tout le monde parle portugais et se dit portugais. Donc vous avez une période où apparemment les autorités africaines côtières et portugaises sont sur un pied apparent d'égalité. C'est ça qui va changer avec l'arrivée de la canne à sucre. Alors la canne à sucre arrive d'Inde, ensuite il y a des plantations en Égypte, les Portugais lui font traverser la Méditerranée, essayent de l'implanter dans certaines îles de l'Atlantique et finalement découvrent le lieu idéal au fond du golfe du Bénin, en face du Gabon, du Cameroun, l'île de Saint-Thomé qui était probablement déserte, où ils installent une première génération de ces Portugais dont je viens de parler, qui sont parfois blancs, mais souvent créoles, quelquefois noirs, et qui vont découvrir un lieu idéal pour la canne à sucre. Et là, ils inventent véritablement la plantation sucrière, ce qu'un spécialiste a appelé le mariage entre l'esclave noir et le sucre.
Alors des esclaves qui seront au nombre de 4000 à peu près par an pour
Absolument,
faire fonctionner les plantations.
L'île n'est pas très grande, elle compte quelques dizaines de planteurs, comme je disais, un petit peu toutes les couleurs, mais avec des différenciations sociales. Les blancs, évidemment, se sentaient supérieurs, il y a déjà des rivalités. Et puis, tout se passe comme dans une plantation américaine, c'est-à-dire c'est le début, en particulier les esclaves qui sont beaucoup plus nombreux que les planteurs, un certain nombre vont se sauver dans la montagne, dans la forêt, créer une communauté de marrons, c'est-à-dire d'esclaves fugitifs.
Le marronnage.
C'est le marronnage. Marron vient d'un mot espagnol qui signifie les vaches retournées dans la brousse qui se sont sauvées. Donc, et il y a une communauté de marrons dès la fin du XVe siècle, au XVIe siècle, qui va avoir un chef qui mourra évidemment battu par les Portugais, mais tout à fait important, qui s'appelle Amador. Et ces barons vont pratiquement occuper l'île, en tous les cas brûler complètement les plantations. Et les planteurs prennent peur, ils décident de s'en aller. Le Brésil vient d'être découvert en 1500, ils partent, ils déconstruisent leurs moulins, ils emmènent leurs esclaves et tous ceux qui savent cultiver la canne à sucre.
Et ainsi se crée la première liaison
transatlantique. Et c'est comme ça que la canne à sucre entre au Brésil et du Brésil passera dans les îles.
Idée. Alors il y a une troisième époque, Catherine Kocry-Vidrovitch. Il y a cette époque, la troisième époque sans doute la plus importante, la plus terrible, qui va du XVIIe au XVIIIe siècle, 1620-1788 précisément. Et où là, la scène se passe aux Caraïbes. L'Amérique centrale, là on parle de la traite sucrière, et un des spécialistes interrogés dans ce documentaire, David Eltis, de l'université Emory à Atlanta, dit que 74% des esclaves déportés l'ont été à cause du sucre. Et je vous propose d'écouter un autre extrait de ce documentaire, la lettre d'un négrier sur les esclaves qui lui sont acheminés. Donc nous sommes en 1686.
Les convois, partis de chez vous le 21 février par le Orange Tree et le 1er mars par le Mary, arrivèrent ici le 29 juin, chaque navire ayant perdu une centaine de nègres qu'il transportait. Le reste a eu la grippe et est en très mauvaise condition physique, ce qui va entraver leur vente. Nous craignons donc de devoir les faire sortir à des taux très bas ou de ne pas pouvoir les vendre du tout. Nous sommes dans l'embarras de ne pas savoir quoi faire avec les nègres qui sont dans une si mauvaise condition que personne n'ose monter à bord pour les acheter. Pour l'avenir, nous vous recommandons donc vivement de nous envoyer autant que possible des bons nègres de la Gold Coast, qui arrivent toujours en bon état et qui sont aussi bien acceptés ici. Mais nous vous prions de ne plus envoyer des alampos, car ils sont si teigneux et si bien connus ici que, si on les laisse venir dans un tel état, ils seront rarement vendus, peu importe le prix.
Là, très clairement, Catherine Kocry-Vidrovitch, l'homme est devenu une marchandise.
L'homme est devenu une marchandise, ceci dit, il l'était déjà avant. Et on a au Xe siècle une description d'un marchand musulman qui dit, un peu dans d'autres termes, à peu près la même chose. Il dit, voilà les bons esclaves, voilà les mauvais, voilà pourquoi il ne faut pas acheter ceci et acheter cela. C'était des objets. En Amérique, on disait des biens meubles, c'est-à-dire du mobilier.
Avec des préférences pour certaines...
Absolument, il y avait des réputations, oui. On disait tel groupe est plus travailleur, tel autre est plus paresseux, ou se révolte, etc. Enfin, toute une série de croyances compte tenu des événements qui s'étaient produits dans les années qui précédaient, en général.
Et c'est à ce moment-là, vous l'expliquez très bien dans votre livre, Les routes de l'esclavage, Catherine Kocry-Vidrovitch, que s'accentue ce racisme, en fait.
Absolument. Ils partent, les Africains partent en étant Igbo, Yoruba, etc. Et pour les Blancs, quand ils arrivent en Amérique, ils sont les Noirs. Et ça va devenir les Nègres au XVIIIe siècle. C'est-à-dire le mot nègre en français à cette époque-là est synonyme d'esclave noir. On n'a pas besoin de préciser la couleur. Bon. Et ça, c'est véritablement la naissance du racisme de couleur, comme l'annonce déjà Ibrahim Atioub, qu'on a entendu tout à l'heure avec le commerce transsaharien, va naître et va se développer très fort à cause de l'esclavage. Ce n'est pas le racisme qui provoque l'esclavage, c'est l'esclavage qui a fait naître le racisme.
Et les Caraïbes constituent l'endroit, un véritable enfer.
Les Caraïbes, c'est un enfer parce que les îles sont relativement petites. Dans certaines îles, certains esclaves ont néanmoins constitué du marronnage. Mais disons, c'est très difficile et c'est surtout un espace clos. C'est-à-dire qu'il y a les maîtres, très minoritaires, 1 sur 10, il y a les esclaves. Une révolte doit être matée de façon extraordinairement cruelle, parce que les maîtres ont peur, ils ont constamment peur, et ils auront de plus en plus peur au XIXe siècle à cause de la révolte de Saint-Domingue.
Alors justement, Catherine Kocry-Vidrovitch, l'enfer dans les plantations, je vous propose d'écouter le témoignage d'un maître, d'un de ces maîtres. Et là, cette fois, nous sommes en Jamaïque, écoutons-le.
Je suis arrivé comme contremaître à la nouvelle plantation il y a 2 semaines à peine. Et nous avons dû administrer justice à un nègre qui s'était échappé. Nous l'avons sévèrement fouetté et nous lui avons frotté du poivre, du sel et du jus de citron vert dans les plaies. 3 jours plus tard, le corps d'un autre esclave qui s'était enfui nous a été apporté. Je lui ai coupé la tête et nous avons brûlé le corps en public. Voilà la seule manière d'imposer notre contrôle sur les nègres. Dans cette affaire, ma cause devient celle de tous les colons. La condition malheureuse du nègre l'amène naturellement à nous détester. Il n'y a que la force et la violence qui peuvent le retenir.
Propos d'un parfait cynisme.
Oh ben, c'était uniquement une affaire de profit. C'était véritablement l'affaire internationale qui rapportait le plus à l'époque.
Alors justement, le sucre est devenu la richesse. Dans le documentaire, un universitaire, un chercheur parle de pétrole de l'époque qui faisait tourner la machine. Et c'est à partir de là qu'est né le capitalisme.
C'est ce que Marx dans le temps appelait l'accumulation primitive du capital, mais c'est tout à fait ça. Effectivement, c'était l'activité internationale la plus rentable. Donc c'est là que l'on accumulait des capitaux qui permettaient pendant plusieurs siècles d'augmenter la flotte négrière, d'augmenter les expéditions. Presque tous les ports donnant sur l'Atlantique en Europe avaient leurs navires négriers. Alors il y en avait qui étaient plus importants que d'autres. Nantes a très comme on dit, la moitié des esclaves envoyés par la France, mais il y a eu beaucoup d'autres ports français, et puis il y a eu beaucoup 170 ports ont été dénombrés, qui avaient eu certains quelques navires de traite, ou un navire de traite, et d'autres plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines.
Et d'après les dernières recherches, 3500 expéditions parties des ports français en 2 siècles.
Oui, absolument. Et les Français n'étaient pas les premiers. Les plus grands négriers ont été les Britanniques.
Ouais, avec des forts construits en Afrique, où là étaient accueillis, si j'ose dire, les esclaves, où là, qui constituaient les places fortes.
Alors, bien sûr, au démarrage, justement, du temps des Portugais, c'était des petits sites, si vous voulez, où il fallait faire ami-ami avec les chefs côtiers. Par exemple, le roi du Portugal a lié une alliance avec le roi du Congo, qui s'est même converti au catholicisme en 1491, parce qu'il pensait que c'était une bonne affaire, et qu'il pouvait recevoir des éléments de progrès venant de ces pays occidentaux. Il s'est fait avoir, évidemment, très vite, les Portugais ont demandé surtout des esclaves. Mais il y avait cette espèce d'activité extraordinairement rentable pour tout le monde, qui l'a été particulièrement et qui est relativement calculée du côté occidental.
Alors, il nous faut maintenant parler de la révolte. Vous avez commencé à le faire avec le marronnage au large de l'Afrique, mais dans ces colonies sucrières, il y a eu des révoltes.
Il y a eu des révoltes. On dit que quelquefois, il n'y en a eu pas beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mais la quasi-totalité ont échoué. Et ont échoué de façon très violente, parce que les planteurs avaient énormément peur et par conséquent, ils faisaient des exemples épouvantables. Ils égorgeaient les gens, ils les crucifiaient, et en public, évidemment, pour terroriser les esclaves, pour leur dire, voilà ce qui vous arrivera si vous vous révoltez à votre tour. Alors, la forme de révolte la plus... j'allais dire la plus facile, j'exagère, c'est très, très difficile, mais la moins susceptible d'échouer, c'était la fuite, d'où le marronnage. Des révoltes directes, il y en a eu énormément, depuis le Brésil jusqu'à l'Amérique du Nord, il y en a tout le temps, mais là, elles échouent. Et la révolte qui ne va pas échouer, et qui est absolument fondamentale en Amérique, c'est la révolte de Saint-Domingue.
De Saint-Domingue.
Où, d'une part, comme Saint-Domingue produisait à ce moment-là la moitié du sucre qui partait en Europe. C'était extraordinaire pour les Européens, et donc pour les Français, Saint-Domingue.
Une île composée de 80...
énormément d'esclaves, beaucoup d'esclaves,
90%
et beaucoup d'esclaves de première génération. Donc des esclaves susceptibles, plus davantage susceptibles de se révolter que ceux qui étaient là depuis 3 ou 4 générations, qui avaient plus ou moins compris que c'était sans espoir. Et cette révolte commence en 1792. Alors on connaît évidemment Toussaint Louverture. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais il a été très important parce que ça a été un meneur et aboutit à l'État indépendant noir.
La première République noire en 1804.
La première République noire moderne, qui terrifie absolument les planteurs, parce que toutes les autres îles sont esclavagistes, sauf Haïti. Donc il faut terroriser les esclaves, qui bien entendu sont tous plus ou moins au courant, par les navigateurs, par les marins, par les esclaves qui sont sur les bateaux. Et donc la répression devient absolument terrible au début du XIXe siècle. Et elle va, la différence, c'est qu'elle va commencer à être connue justement de l'opinion publique européenne.
C'est là que les abolitionnistes vont commencer à pouvoir se faire entendre et pouvoir changer le cours des choses.
Oui, il faut se dire que la plupart des Européens ne connaissaient pas l'esclavage. Ils ne voyaient pas d'esclaves. Enfin, il y en avait dans les ports. Ils ont été disséminés, comme je l'ai dit. Mais on pouvait faire comme si l'esclavage n'existait pas, puisqu'on ne le voyait pas. On touchait les rentes de ces placements dans les affaires négrières. À partir du moment où vous avez une propagande anti-esclavagiste qui montre ce qui se passait, en particulier, vous avez à la fin du XVIIIe siècle une gravure que tout le monde connaît maintenant, qui représente l'intérieur d'un bateau négrier avec tous les esclaves rangés comme des sardines à l'intérieur. C'est la première image que l'on voit, c'est la deuxième image, parce que depuis on en a trouvé une du Marie-Amélie qui date d'une dizaine d'années auparavant. Il n'y avait aucune image, justement, c'était caché en fait en Europe. Alors, pour la première, cette image est diffusée par les anti-esclavagistes dans les années 1789-80 90, à des milliers d'exemplaires envoyés en Angleterre, envoyés en France, éveille l'attention des gens au moment où ça commence à mûrir.
Mais c'est aussi à cette époque que commence aux États-Unis, au sud des États-Unis, l'exploitation du coton. Peut-être d'ailleurs faut-il y voir une des conséquences de la révolte de Saint-Domingue. Des planteurs ont peut-être quitté Saint-Domingue pour aller aux États-Unis.
Oui, une partie des planteurs sucriers vont aux États-Unis. Aux États-Unis, la grande richesse est devenue le coton. Et la grande différence du 19e siècle, c'est que le coton, c'est une matière première industrielle pour l'industrie textile britannique. C'est-à-dire que l'esclavage américain va de pair avec, disons, la genèse du capitalisme proprement dit du 19e siècle, issu de la révolution industrielle. Les Britanniques ont interdit la traite, c'est-à-dire le commerce des esclaves, en 1807. Ils essayent de faire intervenir cette interdiction pour tous en 1815, c'est progressif. Ils vont interdire l'esclavage proprement dit en 1835 dans les îles, donc fermer le marché. Il n'y a plus possibilité de commerce clandestin. Mais ils sont finalement bien contents que les États-Unis, pays devenu indépendant par la Révolution américaine, produisent du coton esclavagiste, parce que c'est plus chez eux. Et ils en ont beaucoup besoin de ce coton industrie.
Et il y aurait eu 1 million d'esclaves au Sud. Des esclaves de 14 à 22 ans.
La différence avec le 18e siècle, avec la période précédente, c'est que dans les périodes précédentes, l'espoir de vie d'un esclave qui travaillait une plantation était au maximum de 8-10 ans. Donc il fallait renouveler, si je puis dire, le cheptel, entre guillemets, et ça faisait d'ailleurs la fortune des négriers, il fallait toujours qu'ils en emportent davantage. Dans la première moitié du 19e siècle, ça devient difficile à cause des limitations sur la traite. Donc les planteurs vont protéger la vie de leurs esclaves, vont les nourrir un peu mieux, vont faciliter les unions, vont faire en sorte d'avoir le plus d'enfants possible, de façon à pouvoir vendre ces esclaves des plantations du sud-est des États-Unis qui se stérilisent progressivement vers l'ouest, parce que c'est la conquête de l'ouest. Donc vous avez une traite interne des esclaves très importante aux États-Unis qui explique pourquoi finalement seulement 400 000 ou 500 000 esclaves seraient venus par l'Atlantique. La plupart viennent de l'intérieur.
Alors, les choses ont changé avec la guerre de sécession, on le sait, hein, 1861-1865, beaucoup d'esclaves s'engageant dans les troupes du Nord pour combattre contre le Sud.
Alors, paradoxalement, les États-Unis, qui sont la dernière très grande puissance esclavagiste, avec une cruauté d'ailleurs redoublée, parce qu'il faut faire de plus en plus peur aux esclaves pour pouvoir les garder, est aussi un État où le Nord n'est pas esclavagiste. Donc, où vous avez des mouvements anti-esclavagistes qui vont se développer, et où les esclaves du Sud peuvent quelquefois pas très nombreux, mais néanmoins, s'échapper avec la complicité de gens du Nord, se retrouver au Nord, à ce moment-là, devenir libre, écrire leur histoire, qui va, elle, à nouveau renouveler le mouvement anti-esclavagiste, et nous avons ainsi, depuis d'ailleurs avant, depuis le XVIIe siècle, beaucoup de récits d'esclaves, pratiquement tous en anglais. Alors, on n'en a pas dans les îles françaises, probablement parce que les îles étaient tellement fermées qu'il y avait juste les maîtres et les esclaves et que on n'apprenait pas à lire du tout aux esclaves, ils pouvaient pas. Donc, il y en a pas.
I am a slave from a land so far. I was caught. And I was brought here from Africa. I'm a slave from a land so far. I was caught and I was brought here from Africa. Well, it was licks like fire from the white slave master. Every day I dug on my knees. Weeks and weeks before we crossed the sea to reach in the West Indies. And then they made me work. Oh yes, I work. A good lot of pay. I toil and toil and toil and toil so hard each day. I'm done.
Aussi extraordinaire, si je puis dire, Catherine Cochry-Vidrouich, c'est que la fin de cette traite vers l'Amérique vont créer en quelque sorte la colonisation en Afrique, puisqu'il va s'agir non plus d'exporter les esclaves, mais de fixer sur place.
Mais on ne veut pas fixer.
De vendre,
sur... oui.
De produire sur place.
Alors, c'est pas les Européens qui produisent les esclaves sur place. C'est les sociétés africaines internes qui ont été travaillées par ces circuits de la traite depuis 3 siècles, donc où les routes des traites se sont beaucoup développées.
Et donc vont servir au commerce.
Qui préparaient donc des gros stocks d'esclaves étrangers à vendre pour l'Atlantique. On peut plus les vendre sur l'Atlantique. Je simplifie en disant qu'est-ce qu'on en fait. Alors, on en fait des soldats pour conquérir à l'intérieur. Il y a des grands empires ou religieux ou pas religieux qui vont se constituer tout au cours du 19e siècle où l'armée est constituée souvent d'esclaves. Et puis, on les met au travail. Cette fois-ci, on les met au travail. Ce sont les chefs, les puissants, comme d'habitude, qui les mettent au travail pour produire cette fois-ci des matières premières nécessaires pour l'industrie européenne, en particulier l'arachide, qui commence à être exporté en 1802 par les Britanniques, l'huile de palme, les bois de teinture, parce que l'industrie chimique n'existe pas encore pour l'industrie textile, bois rouge, bois jaune, indigo, etc. Et donc vous avez une transformation interne des sociétés africaines au cours du 19e siècle, qui deviennent des sociétés de plus en plus esclavagistes. Alors qu'avant, il y avait des esclaves, mais c'était des sociétés à esclaves. Tous les esclaves ne faisaient pas tout. Au 19e siècle, 40%, 50% de la population devient esclave. Et alors, c'est un prétexte, disons, pour les Européens de type philanthropique ou bien impérialiste, de dire il faut supprimer l'esclavage à l'intérieur de l'Afrique, donc il faut coloniser pour leur apporter la civilisation avec C majuscule, sans penser un instant qu'en réalité c'est eux qui finalement, par les siècles passés, ont créé cette situation paradoxale où au fur et à mesure qu'on supprime l'esclavage en Occident, l'esclavage augmente en Afrique.
Alors d'hier et à aujourd'hui, Catherine Cochry-Vidrovitch, on va terminer cette émission avec ça. Je propose d'écouter le député de la Guadeloupe, il s'appelle Max Mathiazin, il est apparenté Modem, et il a fait une déclaration à l'Assemblée nationale le 21 novembre 2017, une déclaration qui n'est pas passée inaperçue, qui a été applaudie par l'ensemble des députés sur place. Écoutons un extrait de cette déclaration.
Sur la planète, il y a des passés qui n'en finissent pas de passer. J'ai connu ma grand-mère. Ma grand-mère m'a raconté son grand-père. Il est né en Afrique, un homme libre. Il a été capturé et vendu. Il est arrivé en Guadeloupe en esclave. Il est mort après l'abolition de l'esclavage et cela se passait en colonie française. D'aucuns pensent que la traite d'êtres humains et d'esclaves ont disparu au XIXe siècle, mais il n'en est rien. Aujourd'hui, en Libye, des migrants africains en route vers l'Europe sont vendus aux enchères comme esclaves par des trafiquants. C'est cette tragédie que vient de révéler au monde la chaîne américaine CNN dans un reportage qui glace le sang. Alors pour moi, comme pour beaucoup de nos compatriotes des Outre-mer et de l'Hexagone, c'est une réalité. Une réalité qui fait partie de ma mémoire, de notre mémoire, de ma vie, de notre vie, de la culture qui nous façonne tous. Mes chers collègues, n'est-ce pas dans cet hémicycle même qu'a été votée en 2001 la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité? La France et l'Union européenne doivent réagir face à ce drame humanitaire insoutenable qui sévit en Libye et dans d'autres pays, et nous les connaissons. Monsieur le Premier ministre, comment la France, pays des droits de l'homme, va-t-elle intervenir pour faire cesser ces horreurs le plus vite? Il s'agit là d'une urgence absolue.
Le député de la Guadeloupe, Mathiazin, le 21 novembre 2017, où là, il y avait l'union du passé et de la continuité, en quelque sorte, de l'esclavage, l'esclavage moderne.
Oui, d'où la nécessité absolue de connaître cette histoire, que nous la connaissions tous. C'est une histoire commune, en particulier mon combat en France, c'est de faire reconnaître dans l'enseignement de l'histoire que l'histoire de la traite et de l'esclavage est l'histoire de France. Et que c'est pas un chapitre de l'histoire de France qu'on met à la fin d'une annuelle, mais c'est intrinsèque, ça fait partie de notre héritage historique et culturel.
Ça, c'est un des aspects de l'autobura, d'ailleurs.
Et si nous voulons mettre fin, justement, à ce genre d'épouvantable relation non humaine, ben, il faut d'abord la connaître. Et ça, c'est une question de savoir. Et c'est pourquoi les querelles sur la repentance sont tout à fait déplaisantes parce que elles mêlent des sentiments de repentance, de regrets moraux à ce qui est en réalité pas du domaine moral, c'est du modèle du savoir. Nous devons savoir, comme le dit un proverbe africain, d'où nous venons pour savoir où nous allons. Or, nous descendons tous d'une façon ou d'une autre de l'esclavage, soit comme descendants de maîtres, soit comme descendants d'esclaves.
Et vous citez à la toute fin de votre livre Catherine Cochry-Vidrovitch qui est une étude d'une fondation philanthropique australienne selon laquelle il y aurait aujourd'hui quelque 40 millions d'esclaves dans le monde.
Absolument, il y en aurait davantage en Asie qu'en Afrique aujourd'hui. Mais il y en a encore beaucoup à travers le monde entier.
Donc le combat continue.
Le combat continue, absolument.
Oui, pour faire connaître.
Ce député a tout à fait raison et il parle merveilleusement bien.
Merci Catherine Cochry-Vidrovitch. Vous avez écrit Les routes de l'esclavage, un livre publié chez Albin Michel. Il doit être lu par tous les enseignants de France, hein, pour ne parler que d'eux, pour saisir l'importance de cette question historique. Et donc il faut lire ce livre publié chez Albin Michel. Merci.
Merci.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Écrivez-nous si vous le souhaitez à l'adresse suivante.
Idées au pluriel @rfi.fr.
Je vous retrouve samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.